Bienvenue dans Impact Positif. Je m'appelle Sylvia Micon et je suis ravie de vous accompagner, le temps de vous faire découvrir un parcours, une démarche, une personnalité. Pour ce podcast, une seule promesse, donner la parole à celles et ceux qui contribuent à trouver des solutions et à les faire circuler pour réduire les inégalités, mieux vivre ensemble, mieux produire et consommer, protéger la planète. Ils sont entrepreneurs, scientifiques, étudiants, artistes ou simples citoyens. Je veux comprendre leur approche, qu'est-ce qui les a fait bouger, quels sont leurs conseils, que veulent-ils transmettre ? Car dans Impact Positif, nous pensons que tout le monde, à son échelle, peut faire bouger les lignes et ça commence évidemment avec vous.
Il ne faut pas attendre l'espoir, il faut se mettre en mouvement. Et c'est en se mettant en mouvement, en retrouvant le collectif, que l'espoir revient. Et souvent, on a tendance à attendre espoir. Espoir, esperar, c'est la même racine que attendre en espagnol, esperar. Et ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas un espoir passif où on attend. Bon, les amis, est-ce qu'on a une chance de réussir à éviter cet effondrement ? Moi, tant que vous ne m'amenez pas la preuve qu'on va éviter l'effondrement, moi, je ne bouge pas. Mais ce n'est pas ça, l'espoir. Non, ce n'est pas ça. C'est aller, ayez le courage de vous mettre en mouvement. Et une fois que vous êtes en mouvement, c'est ce que dit Albert Camus d'ailleurs, une fois que vous êtes en mouvement, vous recréerez de l'espoir chez vous et chez les autres.
C'est exactement pour entendre cela que j'ai voulu inviter Pablo Servigne. Lui qui a souvent été pointé du doigt avec ses co-auteurs pour être un oiseau de mauvais augure, prédisant les catastrophes à venir et égrenant des chiffres et des graphiques implacables. La collapsologie de Pablo Servigne est au contraire mobilisatrice. C'est la résilience, l'action, l'entraide et savoir naviguer entre les imprévus de la vie. Voici près d'une heure de conversation, une heure pour comprendre sa démarche depuis ses premiers livres. Impact Positif en est déjà à sa troisième saison. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis le début et aux autres qui nous rejoignent. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets Impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée, commentez le podcast, partagez-le et notez-le, cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 3, épisode 4, Andiamo. Pablo Servigne, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de participer à Impact Positif. On est vraiment ravis de vous recevoir et de proposer à nos éditeurs cette conversation. Vous êtes ingénieur agronome et docteur en biologie. Vous êtes le cofondateur de la collapsologie, courant de pensée, théorie des effondrements passés et présents. C'est vous qui l'avez fait connaître au grand public en publiant il y a 5 ans « Comment tout peut s'effondrer » avec Raphaël Stevens aux éditions du Seuil, ce qui vous a valu une très forte exposition médiatique. Et là, vous publiez, toujours avec Raphaël Stevens et sous votre direction, aux origines de la catastrophe, une série de textes écrits par des experts dans beaucoup de domaines afin de comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui. C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent avec la revue belge Imagine Demain le Monde. Alors comment on en est arrivé là, c'est-à-dire avec un écosystème qui est en péril et de nombreux épisodes qui nous le rappellent constamment, dont le dernier, cette crise pandémique du coronavirus. On va parler du livre, de l'actualité, de votre parcours, mais tout d'abord, Pablo Servigne, nous sortons à petits pas, à très petits pas de ce deuxième confinement. Devant nous, c'est encore l'inconnu. Est-ce que vous aviez imaginé au mois de mars, que la planète entière serait confinée avec une économie à l'arrêt et les conséquences que l'on connaît aujourd'hui?
Ah non, j'avais pas imaginé que ça arrive cette année de cette manière. Mais on s'était imaginé plein de scénarios possibles, mais celui-là, c'est vrai qu'il était tellement inattendu, catastrophiste. Ça faisait peur aux gens, en fait, dans les conférences et les débats qu'on avait. Donc on s'était même un petit peu empêché, interdit d'en parler. Parce qu'on avait, les gens avaient trop peur, on en avait marre de faire peur aux gens. Mmh. Et du coup, on se censurait un peu bizarrement. Voilà, mais c'est les scientifiques, hein, en parlent, des possibles pandémies à coronavirus. D'ailleurs, ce n'est pas la dernière pandémie.
Oui, ouais.
Chez nous, c'est un peu la première depuis longtemps. Enfin, là, je pense qu'il y en a encore. Il y a d'autres risques globaux. Les blackouts, les crises écologiques, enfin climatiques, les sécheresses, etc. Donc on n'est pas au bout de nos surprises. Des accidents Céveso, des attentats. Voilà, on est en train de vivre une succession de chocs dans tous les sens. Là, c'est vraiment un choc systémique, c'est-à-dire on voit qu'il a, c'est mondial, c'est arrivé, ça a plusieurs causes. Écologique, sociale, politique, et en même temps ça a plusieurs conséquences. C'est pas juste quelque chose de sanitaire. Là on voit arriver une vague psychiatrique,
oui.
On voit arriver aussi une vague de pauvreté, enfin sociale extrêmement forte, d'augmentation des inégalités. Je pense qu'il y a derrière une crise politique grave qui arrive aussi, plus géopolitique, etc. Donc on voit bien l'intrication de tous les domaines. C'est le côté systémique, c'était l'apport de notre travail, ce qu'on a appelé la collapsologie, cette étude transdisciplinaire des effondrements, passé, présent et futur. Donc non, on ne l'avait pas vu venir, en même temps, on savait bien que ça allait venir. Mais Voilà, et notre but, c'est pas de faire peur aux gens, c'est vraiment d'informer un maximum pour qu'on soit lucide le plus nombreux possible pour se préparer.
On va parler justement de votre démarche effectivement pour le grand public. Vous portez quel regard sur les mesures finalement qui sont apportées ici en France pour sortir de cette crise? Est-ce qu'elles permettent ces mesures de tirer les leçons de ces crises, ralentir, moins consommer mieux, relocaliser, retrouver le contact avec le vivant, la nature, retrouver notre souveraineté alimentaire par exemple?
Oui, tout ça, c'est dans l'air, c'est de plus en plus présent dans les médias. Il y a un signal faible qui était intéressant, c'était la Convention citoyenne pour le climat, où on a tiré au sort des citoyens qui n'étaient pas forcément alertes sur ces sujets.
Certains, d'ailleurs, n'étaient pas du tout sensibles à la cause.
Non. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on voit que dès qu'on donne une voix aux gens, on leur donne, c'est pas une importance, mais c'est comme... Voilà un rôle clé dans la société et qu'on les met en contact avec des experts. Ils se forment très rapidement. Il y a vraiment une passion pour la chose publique, la politique. Et ça fait plutôt plaisir. C'était une bonne surprise de voir aussi qu'ils proposaient 150 mesures qui paraissent radicales, dont on parlait de nous depuis des années, en tout cas dans le milieu écologiste. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces mesures sont peu à peu détricotées. Et surtout, on voit lesquelles gênent. Donc les masques tombent en fait, on voit exactement où sont les points clés des rouages de cette méga machine, où est-ce qu'il faut attaquer en fait, où sont les maillons faibles. Donc il y a évidemment la finance, voilà. Et moi ce que je retiens aussi de la pandémie, c'est qu'on a eu, il y a deux choses en fait, il y a depuis des décennies des politiques qui détricotent l'État-providence, tout ce qui prend soin en fait, toutes les institutions du prendre soin, dont l'hôpital et les soins, enfin le médical et tout ce qui est social. Et finalement c'est ça qui a tué, c'est pas tellement le virus qui tue, c'est le manque de personnel hospitalier, le fait qu'il soit mal payé, qu'il soit fatigué...
Et encore en France, par rapport à d'autres pays, je pense notamment à la Grande-Bretagne, on est quand même
et
plutôt...
Encore, on est bien loti par plutôt, rapport à plein de pays, mais c'est vrai que c'est un peu rageant de voir que durant 40 ans de néolibéralisme, on a, c'est fou quand même, on arrive dans le siècle des catastrophes et on détricote ce qui prend soin de nous, ce qui nous permettra finalement de survivre en fait.
De tenir les
chocs. Mmh. Et là, on sent. Moi, ce qui est un peu rageant aussi, c'est qu'on tire pas on sent pas le gouvernement tirer des leçons de tout ça, prendre un virage vraiment marquant. Et surtout, pire que tout, on voit que les États ont retrouvé une sorte de levier de puissance, en fait, qu'ils avaient délaissé au profit de la finance. Et là, ils retrouvent une puissance, sauf qu'ils la déploient non pas vers une belle transition coordonnée ou. Où on refait vivre les initiatives locales, etc. Non, c'est vraiment vers la matraque et les lois sécuritaires et l'État surveillance. Donc c'est plutôt inquiétant.
Il y a aussi beaucoup d'aides qui sont déversées, notamment sur les commerçants qui, effectivement, se retrouvent sans leur activité, les restaurants, les bars. Il y a quand même beaucoup de secteurs qui sont énormément aidés par l'État.
Oui, c'est vrai. Ça a impressionné, par exemple, les pays d'Amérique latine. Moi, je suis à moitié latino-américain et quand... Il commentait les mesures prises par la France, c'était incroyable, quoi. Les loyers qui sont gelés, enfin les aides sociales. C'est vrai que du point de vue d'autres pays, c'est impressionnant ce qui se passe. Ceci dit, ce sont des mesures temporaires, enfin qui d'aide ponctuelle pour tenir le coup quelques mois, mais on sent que derrière qu'il faut relancer la machine. Et j'ai pas vu de mesures vraiment structurelles, mais j'ai peut-être loupé des épisodes. Mais en tout cas, il n'y a pas de remise en question structurelle de tout. En même temps, c'est normal, ils sont arrivés avec des mandats au pouvoir pour faire telle politique, ils ne vont pas changer du tout au tout, ils ont des mandats.
Mais... Là, il y a beaucoup de choses qui ont quand même changé, ils ont quand même eux aussi été bousculés, on va dire, par cette crise, et l'agenda a été aussi bousculé. Mais ça n'a pas l'air, en tout cas, de vous convaincre, en tout cas de vous dire...
Moi, je ne suis pas convaincu pour l'instant, bon, je demande à voir, mais voilà...
Pablo Servigne, justement, la Convention citoyenne, comment vous expliquez qu'il y ait eu autant de critiques sur ces propositions et même sur le fait que 150 personnes qui sont tirées au sort, donc qui ne sont pas des militants écologistes radicaux, loin de là, comment expliquez-vous que ça a tellement du mal à passer, à accepter le fait que 150 personnes complètement tirées au sort, formées, coachées, qui travaillent pendant un an, puissent effectivement avoir des idées intelligentes pour le reste de la société? Comment vous expliquez que ça passe pas du tout pour certaines personnes ici en France.
Ouais, je n'arrive pas trop à me l'expliquer. Moi, j'ai de mes proches, des gens avec qui j'ai discuté, ça passait plutôt bien. Mais c'est vrai que dans les médias, c'était compliqué. Il y a cette habitude qu'on a en France, parce que moi, j'ai fait 20 ans en Belgique aussi, et il y a vraiment une attitude différente vis-à-vis de la politique. C'est beaucoup plus décentralisé, avec une culture du consensus, etc.
Du compromis qui n'existe pas dans tous les pays.
Et là, en France, quand je suis revenu il y a 6-7 ans, j'ai vraiment vu ce hiérarchique pyramidal, ce côté monarchique en France de la Ve République, qui vraiment crée des mécaniques compliquées dans le pouvoir et de la compétition, de la défiance. C'est très dur, c'est rude, en fait. Après, le fait aussi que cette habitude de la Ve République de ne pas faire confiance aux citoyens, de tout reporter sur d'attendre du gouvernement et de l'État, c'est très franco-français aussi. Dans les pays anglo-saxons, ils ont moins ça, ils n'attendent pas de l'aide de l'État et ils font les choses eux-mêmes. Donc voilà, c'est des cultures politiques différentes. Mais je ne sais pas, moi j'ai trouvé aussi... Globalement, les médias, pas tous, mais assez condescendants vis-à-vis des gilets jaunes ou des marches climat. J'étais très déçu parce que moi, ça m'a vraiment enthousiasmé, toute cette énergie, cette inventivité politique, cette intelligence politique qui s'est construite dans les ronds-points ou sur les lieux de blocage. Tous ces jeunes, et ces moins jeunes d'ailleurs, qui se rencontrent, qui au début sont là par indignation, colère, et puis... qui construisent des liens d'amitié, des liens d'entraide et qui construisent une pensée politique. Et en fait, moi, en m'engageant au Conseil national de la Nouvelle Résistance, au CNNR, récemment, en fait, on fait le parallèle avec le CNR de l'époque, le Conseil national de la Résistance, qui avait, sous l'égide de Jean Moulin, qui avait rassemblé toutes les résistances de la France libre et créé, favorisé les maquis. Et dans les maquis, en fait, il y avait plein de jeunes qui ne voulaient pas aller au travail forcé en Allemagne et qui s'emmerdaient, qui étaient là en clandestinité. Et en fait, dans les maquis, me racontait un ancien résistant qui a vécu Claude Alfandéry, qui a libéré la Drôme, justement. Il me racontait, dans les maquis, il y avait des méthodes de discussion, d'intelligence collective d'intelligence politique. Et dans les maquis, ça discutait politique, vraiment. Et exactement comme sur les ronds-points, des gilets jaunes, exactement comme dans les ZAD. En fait, quand on met les gens ensemble, et comme dans la Convention citoyenne, et quand on leur dit « inventer un futur ensemble », en fait, ça vient très facilement. Il faut faire confiance aux gens. Et moi, j'ai l'impression qu'en France, on ne fait pas assez confiance aux gens.
Je pense que ça a bien été perçu, ce qui s'est passé sur les ronds-points, ce qui a un peu nuit, finalement, au mouvement des Gilets jaunes, et toute cette démocratie qui est née, effectivement, sur les ronds-points, c'est la violence qui, ensuite, est arrivée après.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que les médias, après, dès qu'il y a un acte violent, se concentrent là-dessus. Et puis, souvent, on oublie la violence d'État. Et pourquoi il y a des gens sur les ronds-points? Parce qu'il y a une violence d'État absolument brutale. Donc, c'est compliqué, tout ça. Enfin, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'on a, en France en tout cas, facilement tendance à dénigrer, en fait, tout ce qui est nouveau, tout ce qui sort du... toutes les mauvaises herbes qui poussent dans les fissures du béton, en fait, tout ce qui est un petit peu inventif, etc. Et voilà, c'est compliqué. Moi, pendant des années, on prêchait dans le désert, en fait. On disait des choses qui n'étaient pas audibles. Alors, c'est vrai que maintenant, on a un accès médiatique assez privilégié, mais... c'était pas toujours le cas. Et donc moi, je me bats justement pour que ce que j'appelle les mauvaises herbes, tout ce qui permet d'inventer des solutions, même si j'aime pas ce mot, mais des formes de faire société différente, il y en a partout, il y en a dans tous les recoins de la société. Et toutes ces mauvaises herbes, j'aime bien faire pépinière, quoi, faire jardinier toutes ces mauvaises herbes, même s'il y a dissensus, et même si c'est le bazar. Parce que quand il y a une forêt qui brûle, pour qu'il y ait une nouvelle forêt qui réapparaisse, il faut qu'il y ait des jeunes pousses dans tous les sens, plein d'espèces différentes qui partent dans tous les sens. C'est cette diversité qui va faire la richesse de la forêt à venir. Donc quand je pense effondrement, ou catastrophe ou rupture, etc., il faut toujours penser
à l'après aussi.
À l'après, c'est-à-dire à la régénération, le vivant, tout ce qui vient après. Et on a besoin d'inventivité, de créativité, d'imagination. La jeunesse, en ce moment, dans la rue, elle est en plein foisonnement. Il faut la laisser, il ne faut pas la bâillonner. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué, je trouve, en France. Moi, je peux dire ça des Français, je suis Français, mais parce que j'ai vécu en Belgique et je vois le recul des deux pays. Enfin, avec le recul, je vois la différence entre les deux pays et c'est assez remarquable et plutôt assez flippant en France, en fait.
Alors, aux origines de la catastrophe, c'est donc votre dernier livre. L'idée, c'est de sortir d'une réflexion monothématique, binaire, superficielle, d'essayer de comprendre les causes de cette catastrophe en ayant une approche pluridisciplinaire, car pour agir, il faut encore faut-il bien comprendre. C'est un peu l'objectif du livre. C'est vraiment une approche systémique avec plein d'experts. Alors, il y a 25 auteurs en tout qui sont reconnus comme des spécialistes dans leur domaine. C'est vaste, c'est complexe, c'est enchevêtré. Alors, vous pourrez lire aussi bien Nancy Houston sur les mythes que Corinne Meyer sur la surpopulation ou le patron du Chief Project, Mathieu Ozano, sur les énergies fossiles. L'idée, c'est de tisser des liens, c'est de lancer des ponts pour montrer finalement que tout est lié. C'est ça l'idée de ce livre?
Oui, qu'on peut lier, que c'est à nous de lier les choses. La France, c'est une invitation au lecteur à se faire sa propre idée. Et toujours dans ce qui nous a motivés depuis le début avec la collapsologie, c'est toujours dans des nuances de gris, c'est pas blanc ou noir, c'est pas... Il y aura un effondrement tac, comme dans les mythes hollywoodiens, les cinémas hollywoodiens, et puis c'est la fin de tout. C'est vraiment...
Ce serait presque plus simple.
mais c'est un risque aussi, c'est une histoire, un récit qui empêche de penser, qui est trop simpliste. Et du coup, je ne sais pas si vous avez ça, mais quand on discute avec des copains ou avec la famille sur les catastrophes, souvent on veut désigner un bouc émissaire, on veut trouver une des causes principales. Oui, mais finalement tout ça c'est la faute au capitalisme. Oui, mais non, mais tout ça c'est la faute au patriarcat, c'est la faute à, je sais pas, l'invention de la civilisation, le colonialisme. À chaque
les
fois
étrangers.
Il y a les étrangers. Ouais, après ça peut être, c'est vrai, des catégories de population, les super riches ou après les francs-maçons, les juifs, les reptiliens, les machins. Alors il y a toutes les théories qui partent dans tous les sens, mais on a cette tendance, dès qu'il y a un problème, nous les humains, directement, on se sent bien si on cherche des solutions. Et pour ça, il faut aller voir les causes. Quand on a une maladie, il ne s'agit pas seulement d'arrêter la fièvre, il s'agit de voir pourquoi on a la fièvre. Donc c'est totalement sain et logique d'aller voir les causes. Et on nous l'a reproché dans le premier livre, de ne pas avoir parlé des causes. Mmh. Donc là, c'était la suite, le troisième livre. Donc petit à petit, on pose les jalons d'une pensée qui se structure, d'abord le constat 2015, puis la voie intérieure, c'est-à-dire psychologique, spirituelle, artistique, comment on va faire pour vivre et pas seulement survivre à ce siècle des tempêtes. Et maintenant, c'est les causes. Et les causes, pour nous, c'était préalable à une suite qui sera l'organisation, le côté politique des choses.
Justement, c'est ce que je voulais vous demander. La prochaine étape, donc, c'est le chantier politique.
C'est le livre qu'on voulait écrire dès le début, le chantier politique. C'est le plus important. Mm-hmm. Par contre, c'est pas le premier parce qu'il faut d'abord passer. Selon nous, après, c'est notre processus éditorial, notre processus de pensée. On a aussi fait un livre avec Gauthier Chapelle, qui a beaucoup parlé au monde de l'entreprise aussi sur l'entraide, l'autre loi de la jungle, pour casser et fissurer cet imaginaire de la compétition, de l'agression qui, soi-disant, serait la seule loi de la jungle, ce qui est faux.
Qui entre finalement peu à peu dans les entreprises aussi, cette version-là.
Oui, oui, effectivement. Et partout, même dans la société, c'est très bien que ça se fissure. Parce que pour moi, c'est une des grandes causes des catastrophes, c'est cette croyance que la nature humaine est mauvaise et que la nature en général est mauvaise et que tout le monde se bouffe, qu'il n'y a que des rapports de prédation. En fait, c'est faux. Et l'entraide, c'est quelque chose de très présent dans l'évolution, dans le monde vivant et chez les humains. Et tout ça, pour finir, était préalable à la question politique. Pour nous, c'était des balises. Et maintenant, on ouvre le chantier politique. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres auteurs qui l'ont fait et qui le font. La collapsologie est devenue un grand mouvement hétérogène. Il y a des collapsologies. Et pas seulement une.
Alors justement, le chantier politique, vous allez être obligé de parler de solutions. Vous n'aimez pas trop ce terme solution, mais la politique, c'est des solutions aussi.
Oui, c'est l'art du compromis aussi. La politique, comme en disait Marcel Mauss, l'anthropologue, c'est l'art de s'opposer sans se massacrer. J'aime beaucoup cette définition qu'utilisent les convivialistes, un mouvement aussi de réflexion politique. En fait, moi, en étant ingénieur, j'ai été formé aussi à ça. Quand on a un problème, en fait, on appelle un ingénieur, il trouve une solution et le problème disparaît. Ça, c'est... Mais c'est un problème, c'est un piège sémantique. Parce que j'ai découvert que les Anglais, ils ont un autre mot. Ils ont problem, solution, évidemment, mais ils ont un autre mot qui s'appelle predicament. Et predicament, c'est une situation qui n'est pas... C'est pas un problème, parce qu'il n'y a pas de solution. C'est une sorte de situation inextricable. Il n'y a pas de solution. Par exemple, la mort. La mort, on ne peut pas dire que c'est un problème, la mort. Vous ne pouvez pas appeler un ingénieur qui va résoudre la mort. D'ailleurs, il y en a qui essayent dans la Silicon Valley, mais c'est catastrophique. Mais c'est par exemple, une maladie incurable, voilà, le diabète de type 1, par exemple, c'est pas un problème. C'est ce que disent les Anglais, un predicament. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, mais il y a des choses à faire, il y a des manières de bien vivre avec.
Oui.
Et pour nous, les ruptures, les effondrements, les catastrophes, le changement climatique, si on l'aborde comme un problème où il faut des ingénieurs pour le résoudre, ça va être catastrophique. Et je pense qu'il faut le résoudre de manière beaucoup plus sage, en disant, ok, c'est un predicament, je sais pas quel mot en français, il faut apprendre à bien vivre avec. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire et laisser faire. C'est pas de l'immobilisme ou de la démobilisation comme on l'entend souvent de manière caricaturale. Au contraire, il faut apprendre à s'adapter au climat, à tempérer, mitigation en anglais, à essayer d'atténuer en fait le réchauffement climatique et aussi s'adapter. En fait, il y a mille choses à faire partout, mais c'est pas juste une question d'ingénieur. Voilà le petit piège sémantique. C'est pour ça que j'aime pas le mot solution, mais c'est vrai que on a besoin, et là je vous rejoins totalement, de positif, c'est-à-dire dans nos conférences, si on est très clair sur les catastrophes, on a besoin de remonter l'ambiance de la salle, parce qu'on a démonté des publics des fois en étant tellement lucide sur les catastrophes et clair qu'il faut remonter l'énergie de la salle. Pour ça, il ne s'agit pas seulement de donner des solutions, mais aussi de construire un récit. Mmh. Et ça, ça se fait ensemble. Quel est l'horizon qu'on veut ouvrir? Qu'est-ce que vous sentez?
Et ça, quand vous donniez ces conférences-là au début, vous l'aviez déjà, cette deuxième étape dans la tête, c'est-à-dire la ressource intérieure, finalement
Pas tellement, en fait. C'est vrai qu'au début, on était très froid, sec, et on a cassé des publics sans s'en rendre compte. On ne comprenait pas, parce que nous, ça nous intéressait beaucoup, ça nous passionnait, ces chiffres catastrophiques. Et on pensait que juste... en répandant la science et les graphiques et les chiffres du GIEC, etc., les gens allaient juste se mettre à bouger. En fait, pas du tout. Il y a des questions d'affect, de déni, des verrous psychologiques, sociologiques, juridiques. Il y a plein de verrous, en fait, à faire sauter. Mmh. Et ça nous a passionnés. Tout ce corpus, c'est vraiment la collapsologie. Et après, on n'a pas non plus les solutions toutes faites. Là, il faut aller les chercher. Voilà, on s'est impliqué dans tellement de choses. Moi, en agroécologie, en permaculture, j'ai donné plein d'ateliers de partout. J'ai fait des formations. Et puis, petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que chaque personne, avec sa sensibilité, trouve aussi ses... son chemin, ses leviers d'action.
Oui.
Et en retrouvant un peu l'action, souvent collective, d'abord à petite échelle, il retrouve l'espoir. Mmh. En fait, il y a un grand déclic. C'était intéressant de se rendre compte qu'il ne faut pas attendre l'espoir.
Il faut se mettre en mouvement. Oui.
Il faut se mettre en mouvement. Mmh. Et c'est en se mettant en mouvement, en retrouvant le collectif, que l'espoir revient.
Mmh.
Et souvent, on a tendance à attendre espoir. Espoir, esperar, c'est la même racine que attendre en espagnol, esperar.
Mmh.
Et c'est pas du tout ça. C'est pas un espoir passif où on attend. Bon, les amis, est-ce qu'on a une chance de réussir à éviter cet effondrement? Moi, tant qu'on n'a pas de chance de réussir, tant que vous m'amenez pas la preuve qu'on va éviter l'effondrement, moi je bouge pas. Mais c'est pas ça l'espoir.
Oui.
Tant que vous me donnez pas de l'espoir, non, c'est pas ça. C'est allez, ayez le courage de vous mettre en mouvement. Et une fois que vous êtes en mouvement, c'est ce que dit Albert Camus d'ailleurs. Une fois que vous êtes en mouvement, vous recréerez de l'espoir chez vous et chez les autres. Et c'est exactement ce qu'on voit depuis 10 ans. C'est pour ça que la collapsologie est mobilisatrice et pas démobilisatrice.
C'est pour ça, c'est vraiment à cœur d'en parler aussi dans le podcast. C'est aussi un peu vraiment la philosophie de ce podcast. Juste pour revenir à votre livre, comment vous y êtes pris pour articuler tout cela? Parce que ça parle aussi bien de finances débridées, d'invention de l'agriculture. Voilà, il y a plein de... Comment vous avez fait pour finalement trouver les chapitres, la suite des contenus? Comment vous y êtes pris?
On a d'abord... ce sont des relations amicales, surtout, des gens qu'on a fait écrire, qui étaient super doués dans un domaine. Donc on a fait une liste d'abord un peu comme ça, on a tout mis sur la table. On a essayé d'en chercher, donc d'aller chercher aussi des auteurs, parce qu'on voulait, par exemple, quelqu'un qui parle des mythes, quelqu'un qui parle de la perte du sauvage. Voilà, donc on a réuni des auteurs. Et après... Ce qui est chouette là, dans cette démarche, et j'invite vraiment les lecteurs à le faire, après ce premier effet « waouh », en fait, il y a plein de causes, c'est de tisser. Et donc, chaque lecteur prend un fil, une cause, et, tisse, et voit les liens avec les autres, et tisse et fait sa propre pelote. Et moi, j'ai refait les schémas sur un bout de papier en essayant de voir tous les liens de cause à effet, avec des plus, des moins, etc. À chaque fois, c'est un schéma différent, c'est très étonnant. Et alors, par exemple, nous, on l'a trié, là, dans le sommaire du livre, de manière temporelle. C'est-à-dire que d'abord, s'il y a les causes du siècle dernier, qu'elles sont les plus récentes, la finance débridée, les énergies fossiles, la surpopulation, etc. Et puis, on est allé vers le plus ancien, ce qui remonte aux origines de l'humanité, par exemple, les mythes, les organisations hiérarchiques pyramidales, notre cerveau, le striatum, l'invention des religions, de l'agriculture, etc. Et finalement, en les classant comme ça, qu'est-ce qu'on obtient ? Un récit de notre évolution, de notre monde, l'histoire humaine. C'est un des récits, c'est partiel évidemment, parce qu'il n'y a pas toutes les causes. On pourrait en mettre 50, on pourrait en mettre 200, je pense qu'il en manque beaucoup. Mais on pourrait aussi s'amuser à les classer différemment. Moi, je me suis amusé à faire. À les séparer en deux. Et il y a deux grands groupes qui sont apparus. Il y en a un qui se regroupe autour de la séparation nature-culture. Ce grand clivage cartésien là, qui remonte à Descartes, où on a converti en fait tous des êtres vivants, des sujets, en objets, en animal-machine, et on s'est coupé du vivant de manière incroyable. Il y a un auteur aussi qu'on n'a pas pu avoir, qui s'appelle David Abram, un anglais, qui parle de l'invention du langage comme une des grandes étapes de la coupure avec la nature. Le fait que nous, les humains, en parlant, on s'est mis dans l'abstraction, dans notre tête, dans le mental, et on n'est plus dans le sensible. Et on ne sait plus parler, communiquer, être en empathie avec les autres êtres vivants, champignons, plantes, animaux, etc. Et donc cette coupure, elle est majeure. Mais comment on fait après pour, entre guillemets, résoudre le problème ou trouver une solution pour la séparation nature-culture ? C'est un vaste problème qui est en grande partie intérieur. C'est un changement de rapport au monde. L'autre groupe, c'est la volonté de puissance. Enfin, je veux dire, on peut regrouper la moitié de ces causes-là par... le point commun qui est la volonté de dominer. Tous les ismes qu'on a mis là, l'industrialisme, le colonialisme, le capitalisme, même le patriarcat aussi, c'est pas un isme, mais bon, le scientisme, le massacre du monde sauvage, et tout ça, c'est la volonté de dominer, de puissance, qui est quelque chose de très européen, qui est né il y a 500 ans avec la naissance des États, des structures militaires, et qui a fait avec les marchands, vous voyez, Christophe Colomb, il a été en Amérique, en fait, parce qu'il avait des dettes, il devait rembourser des marchands à Gênes, tout le monde de la finance, en fait, les ancêtres de la finance. Et cette coordination entre l'État militaire et le monde de la finance a fait le colonialisme, l'exploitation des autres peuples, des autres races, et puis même, par extension, des animaux, des femmes, de la nature, de tous ces ismes. Et ça, c'est la barbarie de notre époque, c'est toutes les dominations des autres êtres vivants.
Et d'ailleurs, vous appelez les lecteurs à trouver éventuellement d'autres causes, à les travailler, effectivement, à faire leur propre classification, comme vous faites aussi. Vous insistez aussi dans le livre sur les deux facettes, finalement, pour se mettre en action, à la fois intérieure et politique, un travail à faire sur nous-mêmes, qu'on pourrait croire individuel, mais qui est au contraire collectif. Et enfin, se mobiliser aussi sur des causes concrètes, stopper une usine à plastique, financer une école. On n'insiste pas assez sur ce travail intérieur qui est à faire aussi ?
Oui, c'est vrai qu'on pose un problème. Clairement, on a tout de suite envie de trouver des solutions. Et le réflexe, c'est d'aller vers immédiatement les actions collectives, le politique, l'action. C'est un des défauts, je pense, de notre époque. Et nous, on avait besoin de prendre le temps. Et c'est pour ça qu'on avait écrit Une autre fin du monde est possible, qui est un livre sur l'intériorité. Alors en France, c'est très mal, c'est pas très mal, mais c'est un peu mal passé. Moins bien qu'en Belgique ou en Suisse, par exemple, parce qu'on est très braqué en France sur la spiritualité. Les gens, ils sortent leur fusil à pompe dès qu'ils ont. Ils entendent le mot spiritualité, c'est vraiment très agressif. Mais en fait, c'est juste simplement, c'est pas les religions, c'est juste quel est notre rapport au monde, qui on a envie d'être. Le connais-toi toi-même, c'est ça en fait, c'est ça la spiritualité. Et quand on voit toutes ces causes-là, par exemple, la séparation nature-culture dont on a parlé, comment résoudre ce problème, sinon par une grande introspection, une remise en question de notre rapport au monde ? Quelle est ma relation avec les animaux ? Par exemple, une poule d'élevage, est-ce que c'est juste un objet, une ressource ? qu'on peut vendre, massacrer, faire ce qu'on veut avec. Est-ce que juste un objet ? Parce que dans le droit français, ce sont des objets, en fait. Mm-hmm. C'est du mobilier. Ou est-ce que ce sont des êtres humains avec une empathie, avec lesquels on peut déployer un affect réciproque, des réciprocités ? Alors, comment on fait ? On ne nous a pas appris ça quand on est petit. Moi, je n'ai pas appris ça, mais on pourrait développer des manières d'être au monde différentes. Et pour ça, il faut aller chercher, comme on avait proposé, dans les autres cultures, dans les autres civilisations. Mm-hmm. Comme ils font les Indiens Jivaros, les Achuars en Amérique latine, en Amazonie, pour dialoguer avec le jaguar, avec le manioc. Ils disent des poèmes à leur manioc pour qu'ils poussent. Nous, ça nous paraît rigolo ou stupide ou hors de sens. Pourtant, eux, c'est une cosmogonie qui a du sens. Les chamans arrivent à dialoguer avec les non-humains, etc. Donc, il y a eu des animistes aussi en Europe avant, avec les Celtes. Donc, je pense que notre message, c'est d'explorer. C'est pas de retourner au passé. C'est vraiment d'entamer une voie intérieure et de prendre un peu partout ce qu'ont développé les civilisations de bien, les autres cultures, et d'inventer vraiment des nouveaux horizons grâce à ça. Et je dis pas qu'il y a des solutions parfaites ou des panacées. Je dis juste qu'il faut des lieux d'expérimentation de tout ça. D'expérimentation politique, d'expérimentation d'innovation sociale et politique, ou d'innovation même de rapport au monde. Et c'est ce qu'il y a eu dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu de l'innovation politique, sociale et de changement de rapport au monde. Il y a eu tout ça. C'était vraiment un laboratoire du futur absolument formidable. Et il faut plein de ZAD partout, des éco-villages, des zones, comme dit Alain Damasio, qui a écrit un chapitre, d'ailleurs, l'auteur de science-fiction, des zones à gouverner, des ZAG, ou alors des ZOAV, des zones où apprendre à vivre avec le vivant. Il faut en fait juste de l'innovation, de l'inventivité et de l'audace, et qu'on nous laisse faire, en fait, faire confiance à ce vivant qui naît, qui invente, qui innove tout le temps depuis la nuit des temps.
Et vous parlez aussi de la jeune génération. Vous dites qu'elle a déjà, elle, rompu avec les discours du passé, avec les récits de l'ancien monde. C'est un fait, c'est acquis, c'est encore fragile.
C'est encore fragile, mais moi, je suis vraiment étonné par cette jeune génération. Après, c'est pas un bloc homogène, la jeune génération. Hein. Oui. Il y a de tout, mais il y a vraiment une puissance que je sens dans la rue, dans les actions de blocage. Ils cherchent, en fait. Ils sont en train de chercher, comme si c'était une question de vie ou de mort. Enfin, ils, mais moi, je m'inclus dedans, en fait, étrangement. Même si j'ai 42 ans, je me sens
toujours
très, très dense. Voilà, quand il y a Extinction Rebellion, pour moi, c'est un mouvement qui est tellement naturel. Enfin, je sais pas, chez moi, c'est pas juste pour les jeunes, c'est vraiment pour tout le monde, et je me sens en phase avec ça, qu'il n'y a aucun souci. Et je sens, comme il y a une question de vie ou de mort, c'est maintenant ou jamais. Et le slogan de Extinction Rebellion est magnifique, c'est « Quand l'espoir meurt, l'action commence ». C'est tellement beau, c'est comme le slogan « Une autre fin du monde est possible ». Il y a quelque chose du lumineux dans le désespoir. C'est tout le paradoxe de notre époque. Après, c'est vrai que c'est des risques et des écueils. Le désespoir, ça peut créer du nihilisme, ça peut être très dangereux, mais je pense qu'on a une situation assez désespérée. Et comme pendant la résistance à l'époque, où les jeunes qui rentraient dans la résistance, ils avaient 15 ans, 17 ans, 19 ans, qui se sont fait fusiller. Il y a eu un article dans Le Monde récemment d'un résistant qui avait 6 ans. Quinquin, il s'appelait. Mm-hmm. Et il s'est fait tuer aussi. On veut juste un monde meilleur, et on ne sait pas s'il y a de l'espoir, si on va y arriver, mais on y va, on passe à l'action, et c'est maintenant. Et cette jeunesse, il y a cette énergie-là qui est très belle.
La collapsologie, elle est souvent pointée du doigt, on en a parlé jusqu'à présent, elle est vue comme étant forcément négative, hein, catastrophiste, alors que quand on lit un peu entre les lignes, ou quand on vous écoute aussi, tout simplement, on a presque l'impression que c'est tout le contraire, que vous essayez de la diriger vers l'action, vers le renouveau, vers de nouveaux horizons à découvrir. Est-ce que vous avez eu la sensation d'être mal compris quand votre livre est sorti, comment tout peut s'effondrer ? Vous justifiez d'ailleurs dans l'introduction de ce livre-là, Aux origines de la catastrophe, vous dites l'objectif n'a jamais été de faire peur à tout le monde ou de prouver que tout est foutu, au contraire. Aujourd'hui encore, 5 ans après, vous sentez encore la nécessité de vous justifier par rapport à ce livre-là.
On a reçu une volée de bois vert de critiques comme quoi la collapsologie serait démobilisatrice, dépolitisante. Voilà. Mais nous, c'est ce qu'on essaye de faire, au contraire. C'est toujours été de réouvrir des horizons, de fournir des outils conceptuels pour que les gens se débrouillent, qu'ils se passent à l'action, qu'ils inventent des futurs possibles. Après, il y a plus. Maintenant, je pense que depuis 2018, c'est devenu un monstre médiatique. On a créé une sorte de monstre de Frankenstein qui nous a complètement dépassé, qu'on maîtrise plus, et c'est très bien comme ça. Mais c'est devenu un mouvement multicolore. Il y a des collapsologies, il y a des gens qui reprennent un peu cette pensée, qui en font ce qu'ils veulent, et des gens qui veulent pas entendre. Donc, nous, et c'est vrai qu'on écrit des livres qui sont voilà, c'est plusieurs centaines de pages, il faut un peu se forcer à lire, et beaucoup de gens, et parmi eux des journalistes, hein, lisent juste le titre et le résumé, et puis voilà, et donc ça crée beaucoup de malentendus, et sans compter les procès d'intention et les choses qu'on n'a pas dites. Donc finalement, il y a beaucoup de brouillard là-dedans. Mais c'est vrai, quand on lit nos livres, en tout cas je parle de nos livres en collapsologie, avec Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, les gens, la majorité, tous les gens nous disent bon, on a reçu une claque, mais ça nous a fait passer à l'action.
Ça nous a boosté.
Ça nous a boosté, ça nous a donné envie de faire ça, de faire ci, de créer une assoce, de partir à la campagne, de donner en fait un sens à notre vie. Les jeunes, moi j'ai été pas mal dans le monde de l'entreprise et voir l'entrepreneuriat, j'ai vu une cassure entre les générations. J'ai vu des entrepreneurs plutôt âgés qui ne comprenaient pas leurs fils, leurs enfants et leurs filles, qui reprenaient un appareil de production rentable et en fait qui n'avaient rien à foutre de faire de l'argent, ils voulaient du sens. Les jeunes, ils veulent du sens.
Ouais. Ça, c'est déjà depuis ces 10 dernières années, je dirais. Ouais. Mais
cette rupture, ça grandit, ça devient une béance.
Mais ça fait boule de neige aussi sur les autres générations, parce que là, on parle effectivement de cette jeunesse qui veut du sens, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas jeunes, effectivement, qui sont bien avancées dans leur carrière, qui remettent tout aussi
exactement,
en question.
Exactement, ouais. Et ça, c'est remarquable. Et c'est pour ça que le hockey boomer, il y a une certaine fracture maintenant intergénérationnelle qui est aussi un peu dangereuse, parce que il y a vraiment beaucoup d'anciens qui aident cette jeune génération. Donc aussi, quand on dit faire du lien entre générations, c'est ça. Voilà. Mais ouais, ça fracture dans tous les sens en ce moment, la société. Hein. Il y a des fractures intergénérationnelles, des fractures là, dernièrement, avec tout ce qui est complotisme, pandémie, des théories qui sortent de partout et qui cassent des liens, des mouvements en fait qui étaient unis, voilà, qui se fracturent. Il y a des clivages.
Comment on fait pour combattre ce complotisme, justement? Là, vous parlez de,
je suis un peu
certainement
démunie,
du documentaire Hold Up qui a bien fonctionné.
Entre autres.
Mais
après, il y a les luttes intersectionnelles aussi. Mmh. On est dans les militants, voilà. Et puis tout à coup, il y a une lutte féministe qui arrive. Les luttes, voilà, le mouvement Black Lives Matter. Et en fait, tout devient lutte et tout devient clivage. Et il y a ce réflexe de se réfugier derrière des étiquettes. Mais il y a 1000 étiquettes. On est tous les uns contre les autres. On est tous divisés, c'est vraiment dur à gérer. Et des divisions parfois qu'on ne voit pas arriver, comme le mouvement Hold Up, enfin le documentaire, pardon, Hold Up. Je n'ai pas vu arriver ces incompréhensions immenses. Que j'explique pas trop, mais pour l'instant, je vois un brouillard idéologique. Il y a une sorte d'effondrement des idéologies, même gauche-droite. Hein, c'est compliqué à définir, même dans la jeunesse. On demande n'importe qui dans la rue, c'est quoi gauche-droite? Vous aurez une réponse différente à chaque fois. Et donc, il y a une défiance. Moi, je l'interprète parce qu'il y a une énorme défiance actuellement envers les élites, envers même la science. La pandémie a vraiment cassé la confiance que les gens avaient envers la science. Mmh. On confond technoscience, intérêt privé, et puis le temps long de la science, qui n'était pas compatible avec le temps rapide de trouver un vaccin.
Ouais.
Les gens ont vu que la science, c'était aussi des controverses, c'était aussi une affaire humaine. Et du coup, cette cassure de confiance, cette défiance généralisée, elle est dans tous les sens. Et donc, tout le monde se méfie de tous. On est comme crispé là, à se méfier de tout. Et on veut un bouc émissaire. Donc, les boucs émissaires, ils émergent de partout. Il y a des méta-théories qui expliquent tout, qui sont faciles à... Voilà, c'est du tissage facile, c'est très attirant, et puis ça rassemble derrière des étiquettes. Et si par-dessus cette confusion on amène le phénomène des réseaux sociaux qui a été très bien décrypté dans des documentaires, les réseaux sociaux nous maintiennent dans des bulles de personnes qui pensent comme nous, et en fait les gens, la société est en train de se fracturer, se diviser dans des bulles idéologiques qui ne se parlent plus. Ne serait-ce qu'aux États-Unis, entre les républicains et les démocrates, ils se détestent maintenant. alors qu'avant, ils se respectaient un peu. Et maintenant, c'est deux mondes totalement différents. Il y a deux Amériques qui ne se parlent plus. C'est le terreau pour la guerre civile, là. Donc, c'est devenu compliqué, là. J'avoue que je suis un peu perdu, comme tout le monde, d'ailleurs, mais... en termes de solutions et de... ça va être compliqué, là.
Pour revenir sur le terme effondrement, que vous avez donc aussi utilisé, que vous avez aussi popularisé, c'est un terme qui n'a rien de nouveau, hein, il a souvent été utilisé dans l'histoire, et c'est pourquoi vous avez aussi choisi cette citation d'Edgar Morin au début du livre. « Voilà ce qu'est l'histoire des émergences et des effondrements, des périodes calmes et des cataclysmes, au sein même des périodes noires, des graines d'espoir surgissent, apprendre à penser cela, voilà l'esprit de la complexité, et c'est un peu ça aussi l'esprit de votre démarche, de ce livre ?»
Oui, oui, on est vraiment sous l'égide, sous le regard d'Edgar Morin, parce que j'avais rencontré justement en faisant ce livre, et tout de suite, il a été extrêmement perspicace et lucide. Il m'a dit, ah oui, les causes sont entremêlées, chaque cause est une et multiple à la fois. Tout de suite, il a analysé, il a fait l'arborescence des causes. C'est incroyable la lucidité d'esprit. Il va avoir 100 ans cette année. Hein.
C'est vrai. Ouais.
Et il voulait participer, il était un peu fatigué, donc on n'a pas pu. J'aurais rêvé d'écrire et de tisser le dernier chapitre avec lui. Mm-hmm. Je pense que si on fait une réédition, on l'inclut évidemment. Mais c'était une grande, grande influence sur nous, je dis Raphaël Stevens et moi. Mm-hmm. Et toujours naviguer avec cette incertitude radicale. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et que c'est cette brèche qui nous permet d'inventer des futurs. Je suis pas en train de dire que tout ira bien et qu'on va éviter l'effondrement. Je suis en train de dire que malgré les catastrophes qui sont là, il y a toujours moyen, avec l'imprévu, d'inventer quelque chose de nouveau et de s'organiser pour inventer. Je reviens encore à la situation de la guerre. Il m'en parlait justement, Edgar Morin. Et quand il s'est engagé dans la résistance, lui... Déjà avant, hein, la guerre civile espagnole, il avait 15 ans quand il s'est engagé. Et puis après, plus tard, à 20 ans, là, pendant la guerre, il disait qu'on n'avait pas d'espoir. Et en fait, on ne pouvait pas ne pas le faire. Il s'engage dans la résistance. Il y avait des risques de mort. Il ne savait pas ce qu'ils allaient gagner. Et bien sûr, les soviétiques faisaient mort de la poussière aux nazis sur le front de l'Est. Les Américains sont engagés dans la guerre, donc ça leur a donné une énergie et voilà, un vent d'espérance. Mais l'issue était incertaine. Personne parlait, savait qu'il y aurait la libération. Ils pouvaient juste l'imaginer.
Oui.
Ils pouvaient juste s'organiser pour et espérer que ça arrive et faire en sorte d'être prêt pour. Mais c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire que maintenant, il faut s'engager. On ne sait pas si on va réussir. Il faut être prêt à...
Ouais.
Imaginons que ça bifurque. Je ne sais pas, moi, que finalement l'État arrête avec ses politiques de surveillance généralisée, commence une grande transition magnifique vers les énergies renouvelables. Et imaginons, il faut être prêt pour ça. Il faut que dans toutes les localités, on soit formé, on anticipe les catastrophes. Imaginons, on peut le faire en fait. Il peut y avoir des bifurcations en négatif et en positif. Tout notre travail sur l'effondrement, c'est de montrer qu'il y a de l'imprévu en négatif, c'est-à-dire que les catastrophes peuvent possiblement arriver plus vite que prévu. Par des effets dominos. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Il y a toute une science de la régénération. Vous voyez, au premier confinement, on a laissé la nature tranquille. Et ça a refleuri, la faune sauvage est revenue. Et ça nous a étonnés. Et je pense qu'il peut y avoir des phénomènes non linéaires, des phénomènes imprévus, boule de neige, vers le positif. Et les grandes révolutions, c'est ça. Les insurrections, les transitions... Enfin, l'histoire, en fait, est faite de bifurcations, d'imprévus et d'imprévisibles. C'est ce que dit Edgar Morin, en positif et en négatif. Il faut travailler, faire pression vers le positif, sans être sûr que ça arrive.
Ouais.
Mais on est obligé. Et en étant prêt au négatif aussi. Ouais. C'est ce clair-obscur qu'on travaille en collapsologie. C'est ça qui nous tient à cœur. Ce n'est pas parce qu'on est positif qu'on doit oublier aussi les catastrophes. Ouais. On doit être prêt aux prochaines pandémies, ça ne sera pas la dernière. Et ça n'empêche pas d'être dans la joie et de travailler à un monde meilleur. C'est juste les deux.
Vous, quand vous avez publié « Comment tout peut s'effondrer » il y a 5 ans, est-ce que vous avez été fortement exposé? Comment vous l'avez vécu? Vous l'avez mal vécu, en fait, à l'époque.
L'exposition médiatique? Au début, c'était très progressif. On a eu des bonnes... Pendant 3 ans, on a eu un bon accueil critique, jusqu'à 2018. Une bonne presse. Et plutôt des merci, en fait. 80-90% des réactions, c'était merci. C'était, vous avez mis des mots sur une intuition, vous m'avez éclairé sur ça, je me rendais pas compte que c'était aussi grave. Et l'exposition médiatique, au début, c'est difficile. Moi, je suis pas habitué, et puis finalement, on s'habitue. Mais nous, c'était notre émission qu'on s'était donnée, c'était prévenir un maximum de gens. Mmh. Leur donner des outils pour qu'ils se débrouillent. Donc les médias, c'était un passage obligé pour toucher le grand public. Mmh. Et aujourd'hui, c'est devenu compliqué parce qu'en 2018, il y a eu cette bifurcation, ce monstre irrationnel qui est devenu la collapsologie. Et aujourd'hui, on passe la moitié du temps à débunker, à revenir sur des critiques, des malentendus, des procès d'intention, etc. Mais bon, ça fait partie du jeu.
Mmh. Et si vous pouviez recommencer, qu'est-ce que vous changeriez ?
Recommencer l'écriture.
Vous êtes en 2015, vous publiez votre livre.
Essayer de publier plus vite, parce que les gens attendent, ça fait 5 ans qu'ils attendent le livre politique. Les causes, on aurait pu sortir il y a un an. Mm-hmm. Il y a eu plein de retards, mais bon, on a des enfants, on a une vie aussi. C'est dur de tout gérer en même temps. Mm-hmm. On a créé un magazine, le magazine Yggdrasil, qui est un trimestriel. Et tout prend du retard, tout est lent. Dans le monde du livre, en tout cas, c'est compliqué.
Comment vous expliquez que vous avez été les premiers, finalement, à parler de ces constats d'effondrement au grand public
On n'a pas été les premiers. Il y avait vraiment les scientifiques, mais c'est resté marginal, en effet. Mm-hmm. Et puis, il y avait les survivalistes qui avaient trouvé une niche, vraiment plus... un public assez... j'allais dire confiné, c'est pas le bon mot, mais assez... cloisonné, il parlait à des gens qui avaient peur, qui étaient un peu dans le repli. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est être le plus grand public possible en s'adressant, justement en traitant la question des émotions, des affects.
Ça, c'était dans un deuxième temps.
Non, dès le début, comment tout peut s'effondrer, c'est vraiment, on est pris dans l'affect. Et ça nous a permis d'ouvrir un public féminin, mm-hmm. un public urbain, un public de gauche, un public des transitionneurs, des gens des éco-villages, un public... En fait, on a eu des invitations partout, le monde de l'entreprise, que ce soit des prêtres, des religions, des militaires, des policiers, tout le monde, en fait. C'était l'objectif, c'était de s'accorder sur les constats, le dénominateur commun qui puisse faire en sorte qu'on se parle tous, qu'on arrive à essayer d'être le plus nombreux possible à se préparer. Et c'est pour ça qu'on voulait aller toucher les institutions, les hauts fonctionnaires, etc. Et qu'on a un peu réussi quand même. Et pas rester juste entre nous, je sais pas, que ce soit des milieux écolos, extrême gauche ou peu importe.
Oui, vous avez réussi à rentrer un peu près dans tous les milieux. Et ça, c'est vrai que c'était pas évident. Aujourd'hui, comment vous faites ? Vous sélectionnez les conférences, les invitations comment vous faites pour gérer votre temps ?
Aujourd'hui, je fais plus de conférences depuis un an et demi. Mm-hmm. Parce que je suis rédac chef du magazine. Et je sélectionne beaucoup au niveau médiatique. Je dis non à presque tout. Et j'essaye justement, moi, de laisser la place aux jeunes, ceux qui veulent parler et former justement des conférenciers, former des gens, que la collapsologie soit les collapsologies, qui est un mouvement vraiment pluriel et multicolore. C'est le cas d'ailleurs, en fait. Et donc, j'ai plutôt à cœur de nourrir ce mouvement multicolore, et c'est ce qu'on s'emploie à faire avec Yggdrasil, mais que fait aussi Imagine Demain le Monde, le magazine. Et vraiment...
Depuis très longtemps, Imagine Demain le Monde,
c'est
depuis,
vrai,
depuis 20 quelques
30,
décennies.
20 ou 30 ans, je pense.
C'est les pionniers, et on les salue vraiment dans ce podcast pour leur travail qu'ils font depuis vraiment très longtemps. Yggdrasil, justement, c'est votre MOOC trimestriel que vous avez lancé il y a un an et demi. Comment ça se passe ? Est-ce qu'elle a trouvé son public, cette revue ?
Oui, tout de suite, on a fait un kiss-kiss à crowdfunding qui a vraiment cartonné.
Marché, qui a pu...
Ça a tout de suite démarré sur les chapeaux de roue. Ça a trouvé un public créatif, culturel, assez transversal, je pense, très féminin aussi. Et on essaye de toujours relier le côté cœur, spirituel, récit, imaginaire, les mains, l'action, le concret et la tête toujours aussi... à penser. Donc je pense qu'on arrive à cet équilibre. La pandémie nous a fait quand même
un peu de mal, comme
pas mal de tort, comme à beaucoup de médias.
Beaucoup, ouais.
Mais finalement, on survit et mieux on vit, quoi.
Et donc là, vous êtes à la moitié, hein, parce qu'il y aura que 12 numéros, c'est ça, là, c'est le sixième.
Là, on va pour le septième qui sort dans un mois. Et au 12e numéro, dans un an et demi, on s'autodétruit. Et Yggdrasil, si on a créé quelque chose de beau et des liens, du savoir ou de l'argent, ça sera redistribué à notre écosystème ou ça sera dans des jeunes pousses, des nouveaux projets.
Et vous estimez, pourquoi vous arrêtez finalement au bout de 12 numéros?
En fait, c'est pour éviter les limitations, l'hubris. La croissance infinie. Et en fait, quand on crée quelque chose, mais même quand on crée une entreprise, ça devrait être dans, et c'est un principe du vivant, la mort, ça devrait être dans les statuts. On crée une date, une entreprise, on doit le créer avec la date de mort. Et ça amène de l'humilité.
Et ça... pour que quelqu'un d'autre le reprenne, de toute façon, elle ne s'arrête pas.
Ou pas. Vous ne savez pas. Peut-être. Et en tout cas,
c'est une bonne idée.
C'est cette incertitude et cette remise en question qui est la clé de l'innovation du vivant. La mort, ça sert juste à créer de la diversité. Pour pas qu'il y ait des gens qui vivent de manière éternelle, sinon il n'y aurait plus de diversité. Donc je pense que la mort est très saine dans ces cycles de réorganisation et je pense qu'il faut se réinventer. Au bout de 3 ans, un magazine doit se réinventer. Alors ça sera un autre Yggdrasil, ça sera d'autres jeunes pousses, ou rien.
Ce sera plus vous en tout cas.
Peut-être, je ne sais pas encore, mais c'est ça l'incertitude, c'est chouette.
Une petite question d'actualité. Vous parliez tout à l'heure des États-Unis. Vous disiez, c'est un pays extrêmement fracturé, on n'y comprend plus rien, etc. L'élection de Joe Biden, pour vous, c'est quelque chose d'important? Ça va permettre un peu d'avancer? On a vu que le multilatéralisme sous Trump, ça a fait cruellement défaut. Est-ce que, pour vous, c'est un petit signe d'espoir, Joe Biden, ou pas?
Je ne sais pas du tout. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de commenter l'actualité. Et... non, moi, avec Joe Biden ou Trump, je vois que l'Amérique est complètement divisée et ça va arriver en France. En France, on a toujours un temps de retard sur les Américains. Moi, je vois plutôt les risques de guerre civile. Que ce soit Biden ou Trump, il y a des grands risques. C'est pas parce que Joe Biden est élu président que l'Amérique n'est plus fracturée. Par contre, c'est vrai qu'au niveau climat, peut-être qu'il y aura moins de recul, on va dire.
Ouais. Allez, on va se quitter par une petite interview. Dans l'interview, comme dans chaque podcast, c'est parti. On reçoit beaucoup d'entrepreneurs dans ce podcast, des entrepreneurs à impact positif, ceux dont les business models se tournent vers la résolution de problèmes sociaux et environnementaux. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans cette période si particulière?
À un jeune qui veut se lancer, de faire confiance à son intuition et de surtout pas écouter le marché du travail ou l'insertion, tous ces termes horribles, insertion dans le marché du travail. De faire vraiment ce qu'il aime et en sachant que tout ce qu'il aime peut s'en aller d'un moment à l'autre. En fait, de toucher et contacter cette vulnérabilité extrême, cette fragilité de la vie, quoi. Et de vraiment contacter la joie de cette puissance d'action, comme disait Spinoza, puissance d'agir, cette joie qui nous porte et pas de faire les choses... par militantisme triste ou par obligation, etc. Et moi, j'ai vraiment à cœur de remettre, avec Gauthier Chapelle aussi, on a ça, de remettre le vivant au cœur de toutes les entreprises, les principes du vivant, de renouer des liens avec le vivant et pas de rester entre humains. Le slogan « remettre l'humain au centre », aussi beau soit-il, c'est vraiment atroce en fait. L'humain au centre, mais non. C'est le biocentrisme, c'est pas l'anthropocentrisme qu'il faut viser. Mais voilà, et donc ça, c'est vraiment un changement de conception majeur, mais je pense que les jeunes sont très sensibles à ça.
Alors vous aussi, en quelque sorte, vous êtes un entrepreneur avec du recul. Quand vous repensez à vos débuts, quel est le conseil que vous auriez aimé avoir?
Celui-là. Non, mais moi, j'ai eu la chance, j'ai eu un accident à 14 ans qui m'a projeté dans le monde adulte rapidement, un grave accident de la route. Et en fait, j'ai toujours fait ce que je voulais. J'ai toujours suivi mes rêves contre tout... contre vents et marées et mes intuitions. Donc j'ai pas de regrets. Quand j'étais ado, je voulais étudier les fourmis. Je suis devenu chercheur en fourmis, éthologue, myrmécologue, on dit. Voilà, et maintenant, je voulais prévenir un maximum de gens des catastrophes. Et il y a Donc je suis plutôt en phase, j'aurais aimé avoir le conseil sur le vivant, remettre du vivant.
Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si
s'il n'y avait pas eu mes parents aussi pour me soutenir dès le début et me faire confiance et me dire vas-y, quoi que tu fasses, on est derrière, il n'y a pas d'obligation, vas-y. Enfin, on t'aimera toujours, en fait. C'est, je pense que c'est la plus belle leçon qu'on peut donner, et la plus belle énergie, c'est juste la confiance et l'amour. Donc ça, ouais, je les remercie mais jamais assez. Et c'est une bonne... peut-être mon accident, paradoxalement. Je pense que je serais pas la même personne sans mon accident.
Votre plus bel échec?
Le plus bel échec?
Parce que c'est toujours beau, finalement, un échec.
Ouais, c'est dur, ça. Le plus bel échec, je sais pas, Joker, ouais.
Elle est une qualité essentielle pour comprendre notre époque aujourd'hui. Bah, vous en avez dit plein, en fait. Hein.
Ouais, la complexité, l'humilité, je pense.
Que dites-vous à celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie d'agir, de s'engager, mais qui ne savent pas comment?
Pas que se renseigner, je pense qu'on peut voir autant de vidéos YouTube qu'on veut et de bouquins. Je pense que c'est le lien, c'est les rencontres en tout cas qui m'ont fait bouger. C'est d'avoir l'audace, l'envie, la folie d'aller rencontrer les gens et toquer aux portes des gens qu'on admire. Et voilà, d'aller boire un verre, boire un café et de se laisser porter par ces bifurcations que sont les rencontres et les liens. C'est la clé, les rencontres.
Et une dernière question, parce que je sais que vous êtes pressé. Le temps est un bien précieux. Quand vous en avez un petit peu, qu'est-ce que vous faites?
Les enfants. Enfin, pas des enfants. Je passe du temps avec mes enfants. Et lire des bouquins.
Merci beaucoup, Pablo Servigne. On rappelle votre nouveau livre, écrit sous votre direction, 25 auteurs qui tentent d'expliquer les origines de la catastrophe. C'est avec Les liens qui libèrent et Imagine demain le monde, une revue qu'on vous conseille très fortement d'acheter, le magazine des mutations, qui font partie vraiment des pionniers dans les médias de l'innovation sociale et environnementale. Pablo Servigne, où peut-on avoir de vos nouvelles? Où peut-on suivre vos travaux?
J'ai un site qui est très mal fait, que je dois refaire, et pabloservigne.com, et un Facebook que j'arrive pas à suivre. C'est vraiment un peu dur, Facebook, pour moi. Donc peut-être dans librairie et surtout le magazine Yggdrasil et aussi le Conseil National de la Nouvelle Résistance, le CNNR.
Merci beaucoup, Pablo Servigne, et bonne route.
Merci à vous.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à David Führer pour la prise de son. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage. Retrouvez-nous dans notre nouvelle rubrique Impact Positif sur lci.fr avec plein d'autres contenus. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @ipositif au pluriel, sur mon compte Sylvia Micone, sans oublier Instagram, impactpositif.podcast. J'attends vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, et si vous avez passé un moment inspirant, n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles pour nous soutenir. À très vite pour un nouvel épisode d'Impact Positif.